il disait, bon, la présidente de l'Office québécois de la langue française a jugé bon de faire la précision et tout. Puis là, je lui ai dit, écoutez, si vous n'étiez pas intervenu, est-ce que la présidente a réagi? Et là, ben, en bon politicien, il a dit, ben, vous savez, on analysait ça de la même façon, on en a discuté et tout, mais tout le monde sait que si Jean-François Roberge n'avait pas mis son poing sur la table, cette situation-là n'aurait pas été réglée.
Exactement. Ils ont remis de la pâte à dents là-dessus, mais pour les bonnes raisons. Alors, bravo à Jean-François Roberge. Je te parle maintenant de l'Ordre des ingénieurs du Québec, le dossier des infrastructures. Ce matin, une lettre publiée dans la presse dans laquelle on apprend que l'Ordre, ben, en fait, décide d'embarquer sur la patinoire pour des solutions. En fait, on veut un plan pour renverser la vapeur. On parle beaucoup de la crise des infrastructures, pas tant sur le nombre d'infrastructures qu'on veut construire, mais sur le nombre d'infrastructures qu'on n'arrive pas à rénover correctement. Et on parle d'un déficit de 40 milliards de dollars pour rénover les infrastructures qui relèvent uniquement du gouvernement. Je ne te parle pas des infrastructures qui relèvent des municipalités. 40 milliards de dollars. On n'a pas gagné à la loto personne, ni le gouvernement. Tu comprends que ça n'arrivera jamais, là. Jamais le gouvernement va trouver une somme comme celle-là pour mettre les écoles, les hôpitaux, le réseau routier qui relève du gouvernement à jour, là, parce que ce qu'on a besoin, c'est d'une rénovation. Il faut rénover toutes ces infrastructures qui sont vraiment, qui en arrachent dans certains cas. Et ce que j'ai trouvé, ben, je trouve très bien la démarche de l'Ordre des ingénieurs. Malheureusement, ils n'ont pas grand-chose à mettre sur la table. Il n'y a pas de plan précis, il n'y a pas de suggestion pour initier cette grande conversation, consultation à laquelle ils nous conviennent.
Alors, tu vas les aider.
Je vais les aider. Bon, cinq suggestions, puis j'ai bien hâte de voir comment les auditeurs vont agir, parce que généralement, ils ont toujours une opinion sur ce type de sujet. Tout d'abord, on abolit la règle du plus bas soumissionnaire. C'est une règle qui existe lorsqu'on construit des infrastructures, lorsqu'on rénove des infrastructures, on choisit le plus bas soumissionnaire conforme. Ça cause parfois des problèmes importants, parce qu'avec souvent le plus bas soumissionnaire, viennent les extras. Parce qu'en cours de route, hein, on oublie certains éléments dans les appels d'offres. Alors, moi, j'abolirais la règle du plus bas soumissionnaire. On arrête de faire de la politique, deuxièmement, avec la rénovation de nos routes, nos écoles, nos hôpitaux. La priorité doit se faire à partir de critères objectifs et non la couleur du comté. Là, je vous dis ça, puis ça a l'air d'un vœu pieux, parce que depuis toujours, on fait de la politique avec les routes, on fait de la politique avec les hôpitaux, on fait de la politique avec les écoles. Ça a commencé bien avant Maurice Duplessis. Au Royaume-Uni, ils ont développé un outil pour prioriser les projets, pour faire en sorte qu'on discrimine un projet, c'est-à-dire que lequel on va prioriser, tu sais, on priorise un projet plutôt que tel autre, mais pourquoi? Et se sont dotés d'un outil vraiment objectif. C'est de ça dont aurait besoin le Québec. On pourrait très bien s'inspirer du Royaume-Uni pour y arriver. Deuxième proposition. Troisième proposition, on s'est associé au privé pour construire des nouvelles infrastructures au Québec, puis on l'a fait très bien, mais pourrait-on, Philippe, imaginer un scénario où on s'impliquerait, on pourrait créer des partenariats avec le privé pour rénover nos infrastructures? Pourrait-on imaginer, là je vais très loin là, pourrait-on imaginer un scénario où le secteur privé deviendrait propriétaire de certaines infrastructures publiques qui existent déjà? Je ne sais pas, une école, un hôpital. Je mets ça sur la table. C'est très, très audacieux.
Quel serait l'avantage?
Bien, pour le gouvernement, ça réduit, ça enlève de la pression, parce que ce qui pose problème, entre autres, c'est pas juste un exercice de planification de priorisation. Ce n'est que un exercice de disponibilité budgétaire. Souvent, on n'a pas les crédits pour faire les travaux de rénovation qui sont nécessaires. Alors, ça, c'est tout. On l'a fait dans le secteur privé, rappelle-toi du PPP, là, dans le cas de Monique Jérôme Forget.
Les partenariats public-privé.
Tout à fait. On l'a fait avec un certain nombre de projets. Je t'en donne quelques-uns. L'autoroute 25, entre autres, c'est un PPP. Mais malgré le fait qu'on avait peu de marge de manœuvre, on a quand même réussi à réaliser au Québec de très, très grands projets. L'amphithéâtre de Québec, par exemple. Tous les hôpitaux universitaires ont été construits dans un contexte où les marges de manœuvre étaient réduites, mais on y est quand même arrivé. Et là, pour te faire sourire, j'ouvre une parenthèse. Je te donne quelques exemples d'investissements qui ont été réalisés pendant la Révolution tranquille. Parce qu'au Québec, on a beaucoup réalisé de projets dans les années 60-70. Les boomers étaient là, ça prenait des services. Après ça, les deux années 80 jusqu'en 2000, là, on a réduit substantiellement le développement de nouvelles infrastructures. Pourquoi? Parce qu'on a fait face à des crises économiques et sur le plan de l'équilibre budgétaire, c'est devenu difficile. On a recommencé à construire dans les années 2000, au début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Mais on a construit davantage de nouveaux projets qu'on en a rénovés. Ce qui fait qu'on connaît un déficit important pour ce qui est de la rénovation de nos infrastructures. Je te donne quelques exemples de projets qu'on a construits dans les années, pendant la Révolution tranquille, l'année 60-70, qui vont te faire sourire. Le pont Champlain à l'époque, sais-tu combien ça a coûté? 35 millions de dollars. La Place des Arts, on avait projeté qu'elle coûterait 7 millions. Elle en a coûté 25 millions. Le début de la construction de l'autoroute 20, qui sera complétée en 70, on avait prévu un coût de 224 millions. L'autoroute a coûté au final 525 millions de dollars. Ça, c'est quelques exemples que je te donne. Le pont Pierre-Laporte à Québec, 50 millions. Et c'est des chiffres qui font rêver aujourd'hui, on s'entend. Le tunnel Hippolyte-Lafontaine, 75 millions qui nous a coûté lorsqu'on l'a construit. Et tous ces coûts, c'est intéressant parce que là, on prend conscience à quel point ça coûtait peu cher par rapport à aujourd'hui. Puis l'autre, c'est qu'il y avait déjà des dépassements de coûts qui se sont matérialisés, concrétisés dans certains projets.
On ne parlera pas du stade olympique
qui, de toute évidence, avait été mal planifié. Et je te dirais deux autres suggestions très rapides. Le financement, il y a une auditrice aujourd'hui qui nous disait pourquoi ne pas émettre des bons du Trésor, par exemple, pour financer, rénover à nouveau nos hôpitaux, par exemple nos écoles. Suggestion fort intéressante. Et cinquièmement, Philippe, le gouvernement est un très, très mauvais client. Le gouvernement doit payer ses fournisseurs dans un délai qui est raisonnable parce que ça coûte plus cher. Les entrepreneurs, sais-tu qui font, Philippe? Ils voient arriver là un contrat du gouvernement plus 30 % par temps. Pourquoi? Parce qu'ils financent le gouvernement, parce que le gouvernement, lui, prend souvent 90 jours, parfois un an, avant de payer ses fournisseurs. Il va demander des garanties qui sont trois fois plus exigeantes que ce qu'on trouve dans le secteur privé, des garanties aussi pour les assurances. Alors, ce qui fait grimper le coût. Conclusion, Philippe, le gouvernement devrait se regarder dans le nombril parce qu'il a lui-même des gestes à poser pour améliorer, pour diminuer le coût de la facture lorsque vient le temps de rénover nos infrastructures ou encore de construire nos infrastructures. Alors, voilà cinq propositions que je mets sur la table pour cette grande consultation de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
L'idée de la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, qui suggérait des états généraux sur nos infrastructures, puis c'est le genre d'idée qui pourrait être débattue là-bas. Merci beaucoup, Nathalie. Je termine. Tantôt, Dimitri nous le demandait. La question, c'était?
Quel chef n'a pas voté pour lui-même et pourquoi?
OK. Alors, il y a quelqu'un dans la messagerie texte de très rigolo. Il dit, moi, je pense que c'est Jack Missing parce qu'il a voté libéral.
98.5, circulation.
Autour des Laurentides, du côté de Laval, c'est avant Saint-Martin. Pour le reste, entre Blainville et Mirabel. 13 sud Écoumoire, 13 nord avant Côte-de-Liesse, c'est avant la 640. 25 Terrebonne avant l'avenue Marcel-Villeneuve. Descaries-Sud, premier tiers, Descaries-Nord, presque toute la longueur. 640 est à partir de Grande-Allée, Pont-Samuel de Champlain, de la Vérendrye. Tunnel La Fontaine à Yves-Prévost, c'est plus de 40 minutes. C'est avant de Mortagne, en direction de Montréal, le pont Mercier, les bretelles de Lavin. Métropolitaine Ouest, entre la Cordaire et Descaries, pont Charles de Gaulle, on arrive à Henri-Bourassa. Et ça va bien pour le métro. Le 28 avril, aujourd'hui, ouverture officielle d'Experts au travail. Rabais de 20 % sur les articles sélectionnés. Expertsautravail.ca.
La Société de l'assurance automobile du Québec vous rappelle que déremiser votre véhicule en ligne vous permet d'éviter le trafic. Déremiser dans sa clique, c'est pratique.
Salut tout le monde! Aujourd'hui, on a Sylvain qui nous demande...
C'est quoi là, le meilleur tissu pour un fauteuil quand t'as trois enfants?
Oh, bonne question! Trois enfants, man! Pff, meilleur conseil, fais juste pas payer les taxes.
Excellent call!
Jusqu'à dimanche, on paie les deux taxes sur tous les meubles et matelas à prix régulier. Meubles RD, bien se meubler, moins dépenser.
Belle Pure Fibre, c'est la technologie Internet pour les applications à haute performance. Ça utilise des signaux lumineux transmis par fibre optique. Ça permet une énorme bande passante, une basse latence et c'est pas impacté par l'interférence électromagnétique.
Dans le fond, là, c'est un Internet super rapide, parfait pour jouer en ligne et regarder des vidéos sur plusieurs appareils en même temps. Passez à Belle Pure Fibre, l'Internet le plus rapide au pays selon Ookla. Obtenez Internet Fibre 500 pour 70 $ par mois. Visitez belle.ca pour les détails et pour vérifier la disponibilité. Quand tout est clair, la vie est belle.
Ça change tout, prise 1.
L'événement Ça change tout de Ford bat son plein.
Solide! Louez un F-150 STX 2025 avec ensemble décor noir d'une valeur de 60 800 $ à 478 $ par mois sur 24 mois avec 4 375 $ d'acompte à 0%.
C'est 110 par semaine, ça?
Oui, et les propriétaires de Ford admissibles ont un boni de 750 $. Visitez votre détaillant Ford ou Ford.ca. Certaines conditions s'appliquent.
Du 2 au 4 mai au stade IGA, c'est le salon du véhicule électrique de Montréal. Présenté par Garantie Avantage Plus, en collaboration avec Next Drive Napa et VE Recharge. Plusieurs marques sous le même toit et des véhicules en essai. Billets et infos, svem.ca.
Si vous cherchez une assurance pour votre salon de coiffure, sachez que Desjardins Assurance assure les entreprises depuis plusieurs décennies. Vous vous demandez ce que ça change? Ben, imaginez si Sylvie, votre meilleure coiffeuse, faisait ça tous les jours depuis aussi longtemps.
Moi, la dernière fois, je t'ai demandé de me rajeunir un peu, mais là, j'arrête pas de me faire carter.
OK. On va te rajouter un petit 5 ans.
Mais non.
Voilà. Desjardins Assurance Entreprise, c'est pas d'hier qu'on assure. Ça, ça rassure. Demandez une soumission.
Agacé. Toujours pertinent. Toujours pertinent.
Caroline Darrien est la fille de Gisèle Pellicot.
Les photographies qui ont été prises à mon sujet ont été partagées sur Internet avec des inconnus. Le contenu des échanges avec ces individus est à vomir. Rares sont les victimes qui disposent d'autant de preuves qu'il y avait ma maman sur la table. Ça n'existe pas dans l'histoire judiciaire de France.
L'Agacé le matin avec Patrick L'Agacé. En semaine, 5h30. 5h30. 98.5 Montréal. Montréal. Québec, maintenant, maintenant. Politique fédérale avec Dimitri Soudas.
Alors, Dimitri, tu posais une question en tour de table. T'invitais les gens à répondre.
Oui, donc la question est quel chef n'a pas voté pour lui-même et pourquoi? Nous avons un gagnant.
Oui, tout à fait. Puis tu vas communiquer avec cette personne-là après ta chronique.
Tout à fait. Un café la prochaine fois que je suis à Montréal. Mais là, la réponse, c'est Mark Carney. Il n'a pas voté pour lui-même. Pas parce qu'il n'appuie pas sa candidature, mais tout simplement parce que il n'est pas encore député sortant. Seuls les députés élus sortants bénéficient d'une règle spéciale qui leur permet de voter dans la circonscription qu'ils représentent, même s'ils ne résident pas. Donc, M. Carney se présente dans Nepean, mais il réside dans Ottawa-Vanier. Donc, il a voté cette fois-ci dans Ottawa-Vanier. La prochaine fois, s'il est élu ce soir, s'il se représente, s'il décide de voter pour lui-même, il pourra le faire.
OK. Alors, il est allé voter dans la circonscription qui est pas loin, là, où il réside.
Exact.
OK. Intéressant. Alors, la personne, oui, on va... il y a beaucoup de gens qui ont eu la bonne réponse, mais il y en a une qui a été la première. Alors, on va communiquer avec cette personne-là. Après la chronique, Dimitri, je veux faire appel à ton expérience. On le sait, tu as été très près de Stephen Harper pendant des années. Tu as vécu plusieurs élections fédérales. Ça fait quoi un chef de parti, un premier ministre, le jour de l'élection? Là, tout à coup, la folie de la campagne électorale jusqu'à la veille, puis on le sait cette année avec ce qui est arrivé à Vancouver et tout, ça a été un feu roulant. Là, les organisations ont dû s'adapter jusqu'à la toute fin. Là, aujourd'hui, ils vont voter. Mais là, le reste de la journée, là, Mark Carney, Pierre Poilievre et François Blanchet, qu'est-ce qu'ils font?
Ils sont une boule d'anxiété.
Ouais, hein?
C'est ça la réalité. Ils n'ont rien à faire. On leur demande de ne rien faire. Parce que nous avons beaucoup de travail à faire, les stratèges de la campagne. Donc, les chefs, ça, tu peux aller dîner avec ta famille, parler avec des amis, mais dérange-nous pas. Pourquoi? Mais parce que aujourd'hui, il y a la chose la plus importante, c'est l'opération de mobilisation du vote. En anglais, on dit GOTV, Get Out the Vote. Essentiellement, ce qui se passe depuis 5-6 semaines, c'est quelque chose qui s'appelle le pointage. Le pointage, c'est que ça soit du porte-à-porte, que ça soit les téléphones, que ça soit par le biais des médias sociaux, on identifie, les partis politiques identifient ceux qui les appuient. Donc, Philippe appuie parti Y, on met un tag dessus. Aujourd'hui, tous les tags positifs, on les appelle, on les harcèle de façon, bien sûr, professionnels d'aller voter. Tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas voté, c'est des appels, c'est du porte-à-porte. Tu peux aller jusqu'au point d'envoyer quelqu'un, un chauffeur, les prendre par le collet, les mettre dans l'auto pour...
Ça se fait réellement, ça.
Ça se fait. Et ça doit se faire. Il y a aussi la surveillance des bureaux de vote avec des scrutateurs et des représentants pour s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie. Il y a des équipes juridiques, bien sûr, des avocats en alerte. Il y a aussi un suivi interne de la participation. Il faut, à chaque heure, avoir un retour pour voir si le vote sort. Et si le vote ne sort, par exemple, si le vote sort dans une circonscription où ça va très bien, tu prends les ressources de cette circonscription et tu les envoies ailleurs pour t'assurer que ton vote sort de façon solide partout. Bien sûr, les candidats vont serrer des mains, aller aux différents bureaux de vote pour saluer les bénévoles. Et finalement, la partie difficile pour certains est facile pour d'autres. C'est préparation des événements, de l'événement de victoire ou de concession.
Alors, les discours.